Au quotidien, 5e édition.
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui, je regarde ma montre, 26? 26 août. Mon Dieu, quand j'étais plus jeune, le 26 août, c'était encore des vacances. Et ce matin, il y a des enfants qui vont à l'école.
Mais il y a des grands qui ont commencé, mon cher Yvan Deslauriers, c'est Francine Forget qui vous salue.
Oui, j'étais pas vous présenter.
Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, il y en a qui ont déjà commencé, les plus grands enfants.
Les plus grands au cégep, au collège.
Oui, voilà.
Oui, puis j'ai même lu ou entendu cette semaine que ça cause toutes sortes de petits problèmes au niveau touristique. Parce que les collégiens, comme ça, c'est des jeunes qui travaillent l'été dans toutes sortes d'endroits, des restaurants, etc. Et quand ils partent à l'école, toutes ces choses-là sont affectées par ces départs-là.
Ça fait une vingtaine d'années, Yvan, qu'on en parle. cette année, le sujet est revenu dans l'actualité à cause, évidemment, de la pénurie de main-d'œuvre.
Alors, voilà, c'est lancé cette émission de débat. Non, c'est pas vrai. C'est une émission... c'est l'émission du vendredi. On va faire un peu d'actualité, mais on va faire aussi d'autres choses. On prépare la fin de semaine et on vous raconte, Francine et moi, ce qu'on va faire. Mais on est entouré aujourd'hui de Maurice Bolduc. Maurice, est-ce que c'est la première fois que vous faites équipe avec nous dans merveilleuse
On casse
émission?
La glace, oui.
Alors, merci, bienvenue d'être avec nous.
Ben, merci à vous.
Et on vous a déjà fait des petites commandes, je le sais. Alors, vous allez nous satisfaire, sûrement. Alors, Francine, qu'est-ce qu'on a regardé la semaine dernière dans votre cas?
Dans mon cas, deux choses sur lesquelles j'attire votre attention. La première, c'est les 100 ans de René Lévesque.
Oui.
Cette semaine, je crois que c'est mercredi, on a inauguré, le mercredi 24 août, puisque c'est la date, n'est-ce pas, c'est la date de naissance de René Lévesque, qui est décédé un 10 novembre 1987. Donc, il y a 100 ans, René Lévesque naissait et on a inauguré l'espace René Lévesque dans le quartier des spectacles. Qu'est-ce que c'est que l'espace René Lévesque? C'est en fait une exposition sur la vie de René Lévesque. L'espace René Lévesque, pour ceux qui sont allés voir Dany Laferrière l'année dernière, c'est exactement à la même place, c'est-à-dire devant le pavillon de gestion de l'UQAM. Vous savez, l'espèce de paquebot.
Donc
derrière la place des Arts sur de Maisonneuve. Alors, vous allez le repérer très, très vite parce que vous voyez, en montant ou en descendant, un immense tableau. En fait, c'était la reproduction d'un tableau noir où on résume en quelques thèmes la carrière de René Lévesque. C'est extrêmement intéressant et je dis extrêmement parce que c'est très didactique, c'est très pédagogique et on se rend compte jusqu'à quel point c'était un homme d'exception. D'ailleurs, le titre de cette exposition, c'est « Le parcours d'un homme d'exception ». Alors, on voit tout ce qu'il a fait. On voit son enfance, on voit la partie où il a été correspondant de guerre, journaliste, homme politique, et aussi ce qu'il a fait dans différents domaines de la langue, la démocratie, avec le financement des partis politiques, le contrôle des ressources du territoire, évidemment, avec la nationalisation de l'électricité en 1963, le niveau social, l'assurance maladie, la création des garderies, etc., l'économie, le régime d'épargne-action, la culture, etc., etc. C'est assez impressionnant. Ce n'est pas un lieu commun de dire que ce fut un grand homme. Alors, je vous invite à y aller. Apportez votre téléphone. En arrivant, vous scannez le code QR. Vous avez aussi avec vous vos écouteurs et vous allez faire un parcours extrêmement intéressant avec des points de repère très, très précis pour justement vous référer à ce qui est enregistré sur votre téléphone.
Et pour plusieurs d'entre nous, on a vécu plusieurs de ces événements-là. Pas tous, évidemment, mais donc ça va avoir des références dans nos propres vies.
C'est très bien fait, je trouve, et c'est au niveau de tout le monde. Deuxième petite chose, je passe rapidement, mais je serais incapable de ne pas en parler. Cette semaine, Mme Nadine Giraud, qui est ministre des Relations internationales et de la francophonie jusqu'à... Elle, finalement,
un mois
ouais, c'est ça, dans un mois...
Octobre.
Elle a accordé une entrevue à Céline Galipeau. Vous pouvez, soit sur le Twitter, soit en allant dans le compte de Céline Galipeau ou de Madame Giraud, revoir cette entrevue. Je trouve que c'était vraiment un très bel exemple de ce à quoi peut servir justement une entrevue avec une politicienne. Madame Giraud, qui a été interviewée par Céline Galipeau, une Céline Galipeau humaine, mais qui savait poser les questions au bon moment. C'est très émouvant. Madame Giraud est atteinte d'un cancer du poumon. Une femme qui n'a jamais fumé, qui est une sportive et qui se montre telle qu'elle est à ce moment-ci. Donc, une humaine qui veut combattre, c'est sûr, mais aussi qui expose sa vulnérabilité. Merci.
C'est
je suis un peu émue en parlant de ça, parce qu'on connaît tous des gens qui sont passés par là.
Oui.
Donc, sa vulnérabilité, ses doutes, ses émotions. Très belle entrevue de 7 minutes.
Oui, puis je ne l'ai pas vue, mais je vais la voir sûrement. D'autant plus que c'est une ministre, c'est une députée, c'est une ministre. Puis on s'attend beaucoup encore, malheureusement, de nos ministres, que ce soit des personnes presque imperturbables.
Oui.
Et de voir quelqu'un qui vit sa situation tout en étant ministre, tout en étant, je ne sais pas si elle est mère ou c'est une amoureuse, toutes ces fonctions-là qu'on est, c'est vraiment touchant. Je vais certainement faire le détour.
Ça vaut la peine.
De mon côté, je fais un petit suivi de notre dernière portion de chronique de l'émission qui dit qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine. Ben, moi, je vous ai parlé que j'allais voir le spectacle de Flore Laurentide au Théâtre Verdure et c'est la première...
Laurentienne, merci.
Ouais. J'ai dit... oui, je l'avais bien écrit pourtant. Et c'est la première fois que je retournais au Théâtre de Verdure.
Mais ça fait pas longtemps que c'est inauguré.
Non, ça a été...
Vous êtes tout pardonné.
Oh, je me sens mieux. Mais ça a été à la fin du mois de juin. C'est drôle d'en parler parce que la programmation pour cette année se terminait hier. Alors, je parle de quelque chose où on peut pas aller finalement. Mais... mon Dieu, l'année prochaine, là, arrangez votre calendrier pour faire au moins une visite à cet endroit. C'est tout simplement magique de pouvoir s'asseoir dans ce très beau parc et de regarder un spectacle, ou dans ce cas-ci, c'est un spectacle de musique classique moderne. Bon, il y a des éléments que j'ai beaucoup aimés, des éléments où j'ai moins accroché. On va avoir tantôt... j'ai demandé à Maurice de nous faire une petite surprise de ce côté-là, fait qu'on va entendre... Flore Laurentienne. On a entendu parler des fusillades. Ça, c'est pas un suivi de mes choses de la semaine passée, par contre. Je suis pas encore capable de penser que Montréal est une ville dangereuse. Mais la répétition de ces événements-là commence à me préoccuper. C'est un suivi de la semaine dernière. Je vous disais, faites attention, ça va être le championnat mondial, la finale du championnat mondial junior. Qui devait avoir lieu samedi de la semaine dernière, en même temps que le spectacle d'ailleurs. J'ai vu les reprises quand je suis arrivé à la maison. C'était une finale hollywoodienne. On aurait fait un film, là, puis on aurait dit « Oh, on a poussé fort! » Mais ça s'est vraiment fait. La Finlande a failli gagner en temps supplémentaire. La rondelle s'en allait dans les airs vers le filet et un joueur canadien a tapé sur la rondelle La rondelle est tombée tout près de la ligne des buts. Ils ont réussi à la sortir et une minute plus tard, les Canadiens comptaient le but de la victoire. Ça ne se pouvait pas. Alors moi, c'est mes faits saillants de la semaine. Et cher Maurice, dans cette émission, la chanson du jour, c'est nécessairement un duo. Parce qu'on est des co-animateurs, alors on s'est donné comme devoir de trouver des duos. Dans le duo de cette semaine, c'est un duo, mais au sens... plutôt large, vous allez voir.
Est-ce qu'on regarde le contenu avant de...
Oh mon Dieu, j'ai pas fait le contenu!
Peut-être. Allons-y. Alors moi, avec Marcel Ducas, on va parler d'éducation, en fait. Le procès de l'évolution, vous savez, l'enseignement de l'évolution.
Oui.
Ah, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Lui, il va nous ramener au début du 20e siècle. De mon côté, je vais parler du téléphone, le téléphone à l'école. C'est d'actualité. Oui. Ce matin, on en parle dans la presse plus.
Et de mon côté, je suis un peu mélangé. Hein? De mon côté, évidemment, on va parler avec Monique Kirouac lors des unes régionales. Ensuite, du côté consommation avec Serge Hamelin, on va parler du détergent à lessive. Et comme j'ai fait la blague et au sérieux, moi, c'est pas tellement le détergent, mon problème, c'est de séparer les couleurs. Avec Jocelyne Richard, qui est la présidente de l'Association des sports du Montréal métropolitain, on va parler de duathlon, kayak et soccer sonore. Et voilà, c'est un peu le parcours qu'on va faire ensemble. Et là, c'est le temps, Maurice. Tu peux y aller.
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire. Juste un regard facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Mais qu'on vit dans la même lumière, même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent, nous on voudrait leur dire.
Un peu plus d'amour encore. Pour moi de l'âme, pour moi de vide, pour moi d'hiver.
Puisqu'on vit dans les creux.
Des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire, il faudra leur dire.
Facile à faire.
Alors, c'était la chanson « Il faudra leur dire » de Kids United et Corneille. Donc, c'est leur version de la chanson de Francis Cabrel.
Les unes maintenant à Montréal. Je commence par la Presse Plus. Bon, je vais faire un lien avec ce que vous avez dit d'emblée, Yvan, quand vous avez parlé de Montréal, une Montréal ville sécuritaire. Alors, à la une de la Presse Plus, le financement du SPVM, de la police, Québec met en doute la gestion de la ville. Bon, il faut voir que le gouvernement Legault soupçonne Montréal d'avoir utilisé des fonds qui étaient destinés à la lutte contre la criminalité pour réduire ses propres dépenses dans l'enveloppe du SPVM. Évidemment que le cabinet de Mme Plante nie fermement cette intention, mais le fait qu'on soupçonne Montréal d'avoir agi ainsi. Donc, il y a ce qu'on sait, c'est qu'il y aura en tout cas des négociations, là, si ce n'est commencé ce matin, parce que Mme Guilbeault était hier à Montréal, Elle a fait un défilé
mode
et elle va s'entretenir avec Mme Plante, ce qu'on a compris, là, pour que ça se règle au plus vite toute cette question, puisque le refinancement du service de police est en cause parce qu'il y a normalement des subventions qui devraient être versées à Montréal sous peu.
Probablement qu'il y a des gens au cabinet de Mme Plante qui n'ont pas beaucoup dormi la nuit passée.
C'est possible. Du côté de la Presse Plus, toujours, dehors les téléphones, donc comme je l'ai mentionné, je vais y revenir tantôt dans la chronique techno, c'est une question qu'on pose à la rentrée scolaire. Et aussi, on fait état dans la section cinéma de 40 films qui marqueront la rentrée. J'ai jeté un coup d'œil, alors si jamais cette semaine, là je suis rendue à la fin de l'émission, j'empiète sur mon temps.
Vous scoopez vous-même?
Je me scoope moi-même. Si jamais à la fin de semaine, pendant la fin de semaine, vous souhaitez faire un bain de cinéma et savoir ce qui s'en vient, c'est pas mal intéressant cette chose-là.
Oui.
On parle beaucoup, beaucoup éducation, école dans les quotidiens ce matin. Du côté du Journal de Montréal, on en met plein la vue à la une avec une école qui en met plein la vue. Alors c'est le fameux Lab École.
Ah oui, la première.
Lab École, la première école située à Limoilou, la première du genre, puisqu'il y en aura cinq autres dans différentes régions du Québec. Le Lab École, il faut se rappeler que a été initié par l'architecte Pierre Thibault, l'athlète Pierre Lavoie et le chef cuisinier Ricardo Larrivé. C'était en fait de concevoir des espaces collaboratifs, comme on le dit dans le Vieux-Montréal. C'est une école qui ne doit ressembler à aucune autre, où les élèves vont pouvoir apprendre dans de larges corridors munis d'alcôves avec des gradins en bois, une terrasse extérieure avec une vue imprenable sur Québec, etc., etc. Ironie, dans la page de gauche de cette nouvelle, un autre titre, « Fenêtres calfeutrées pour la rentrée ». Alors, Pascal Dugas-Bourdon nous parle d'une école à Montréal où le bâtiment, dont les fenêtres, tombent en décrépitude au point où on a dû calfeutrer avec du contreplaqué et de l'adhésif les fenêtres avant la rentrée scolaire. Alors, deux poids, deux mesures, c'est un peu particulier quand on regarde ça.
Ben, c'est surtout la mise en page qui confronte ces deux réalités.
Oui, qui confronte ces deux réalités. En fait, l'école montréalaise et en région où on a l'intention de bâtir encore, comme je le mentionnais, cinq autres écoles, comme entre autres à Rimouski et à Saguenay.
À Gatineau,
oui, en effet. Je vous dire les autres régions, je peux vous les donner. À Shefford et Masquinongé.
Oui, je pense qu'il y avait l'idée de bâtir de telles écoles dans toutes sortes de milieux, éloignés, pas éloignés, urbains, etc., pour voir différentes approches possibles.
Oui, je pense qu'au milieu urbain, c'est à Québec, là, parce qu'à Montréal, il n'y a aucun projet qui est prévu à court terme. Je pense qu'il va falloir commencer par réparer, commentaire éditorial, là, les problèmes justement de l'ordre de ceux que le Journal de Montréal a relevé. Du côté du Devoir aussi, on parle beaucoup éducation. En page à 3, on parle des cégeps, rentrer dans les cégeps, où il y a une baisse cette année encore. L'an passé, il y avait une baisse de 1,3% de la fréquentation scolaire. Et cette année, c'est 1,1%. Alors, il y a des craintes de ce côté-là et on attribue ça au fait que, justement, il y a eu la pandémie, le manque de main-d'œuvre qui fait qu'il y a peut-être qu'il y en a certains qui ont été tentés, attirés justement pour occuper un emploi avant de continuer de poursuivre leurs études.
Puis il y a une clientèle internationale accrue. Alors la diminution de 1,1% là, est un peu cachée. C'est pas vraiment 1,1%, c'est peut-être plus.
Ouais, faut voir du côté international. Cependant, il faut voir les chiffres parce que la clientèle internationale, elle est accrue, mais de façon générale. Est-ce qu'il y a eu cette année plus d'étudiants vers le cégep plutôt que les collèges privés? Parce qu'il y a beaucoup de collèges privés qui sont spécialisés là-dedans, ou encore des universités. Toujours dans le Devoir et toujours en éducation, changer d'école à minuit moins une. Alors, quelques jours avant la rentrée, le Centre de services scolaires de Montréal a fermé des groupes d'une école spécialisée. Pourquoi? Anne-Marie Provost nous dit que l'impossibilité de recruter trois enseignants a forcé cette décision, a forcé le centre scolaire à prendre cette décision. Et il y a une mère qui déplore le manque de planification et l'impact sur les élèves plus vulnérables. Cette mère dit qu'il ne veut pas se nommer vraiment parce qu'elle ne veut pas que sa fille qui a une grande anxiété puis une phobie de l'école en subissent des conséquences. Elle donne tout simplement son prénom, Barbara. Elle dit que, sa fille s'était bien préparée, elle avait retenu les notes de son école et elle était comme prête à faire ce changement, à s'en aller dans cette école. Et malheureusement, mercredi, elle a appris que ce ne serait pas le cas dans un communiqué qu'a émis le centre de service qui dit que malgré tous les efforts de recrutement, ça a été impossible de combler ces 3 postes.
Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors, on s'en va dans les cantons de l'Est.
Exactement. Alors, je commence par la saga du lac Mégantic. Alors, toujours 9 ans plus tard. Écoutez, pièce centrale dans le dossier de la voie de contournement de lac Mégantic, eh bien, le rapport hydrogéologique commandé par Transport Canada et le Canadien Pacifique a été remis tout récemment aux municipalités dont les nappes phréatiques et les sources d'eau seront touchées par le tracé. Celles-ci ont fait appel à un expert pour les assister dans l'analyse de ce rapport. Donc, la mairesse de lac Mégantic et les maires de Frontenac et Nantes ont reçu cet étude, mais ils n'ont pas le droit à l'heure actuelle d'en divulguer la teneur aux citoyens. Le rapport sera rendu public le 29 août. Le dévoilement prochain donc de ce rapport va mettre la table pour les consultations publiques qui seront tenues par Transport Canada les 13 et 14 septembre. On le devine, les maires et mairesses invitent les citoyens à se présenter à ces consultations. Il faut aussi rappeler, Yvan, que Frontenac a retiré en mai son appui au tracé de la voie de contournement. Donc, la saga ne se terminera pas demain. Du côté alimentation, eh bien, il y a plusieurs fermes biologiques de la région de l'Estrie qui exportent leurs produits aux États-Unis et qui tentent de développer ou de renforcer leur clientèle locale. Parce qu'à l'heure actuelle, la demande aux États-Unis pour le bio est très forte. Les canaux de distribution y sont simples et efficaces. Ils ciblent les régions de New York et de Boston, qui représentent, on le devine, beaucoup plus de population si on compare au Québec. Il faut dire que 60 à 90 % des productions locales estriennes sont vendues aux États-Unis. Alors, je pense que comme citoyens, comme consommateurs, il faut se presser d'acheter local, sinon tout part vers les États.
Oui, surtout après.
Alors, l'autonomie, c'est pas demain la veille.
Puis après la pandémie, on avait mis beaucoup d'accent sur l'achat local et l'autosuffisance.
Oui, pendant la pandémie, en fait. Et après la pandémie, on a constaté que, par exemple, les paniers bio étaient beaucoup moins populaires. Donc, on adhère puis on n'adhère plus. Parlons santé maintenant. Le décès d'un homme dans un contexte de découverte ambulancière à Coaticook la semaine dernière a de quoi inquiéter les citoyens des petites municipalités et de zones couvertes par une ou deux ambulances. Alors, il faut éviter les bris de service à cause d'un manque de personnel, c'est essentiel. Il faut revoir les conditions de travail parce que le salaire et les conditions des paramédics au Québec ne permettent pas de rivaliser avec d'autres métiers d'urgence. Rappelons que la moitié des paramédics du Québec sont toujours sans contrat de travail à l'heure actuelle. De plus, il faudrait revoir la loi qui régit la couverture ambulancière pour permettre à plus d'ambulances d'être sur un même territoire en même temps. En ce moment, pour les zones comprenant 15 999 personnes et moins, une seule ambulance est permise sur le territoire, sauf exception. Donc, si elle est occupée, celui qui attend, il peut mourir comme c'est arrivé.
Au sens propre, oui.
Oui, c'est ça. Sur le plan culturel, finalement, c'est un peu plus joyeux ce que je vais vous raconter.
Oui, finissons sur quelque chose de souriant.
Oui, c'est ça. La microbrasserie Canton Brasse à Orford a annoncé sa nouvelle programmation pour l'automne. Alors, il y aura des soirées d'humour, quiz, soirées de contes, spectacles de musique, spectacles d'impro et ateliers d'art qui seront au rendez-vous. Écoutez, il y a des choses à partir du 7 septembre jusqu'au 7 décembre, que ce soit de l'humour, programmation musicale. Tous les mercredis du mois, il y aura des histoires de conteurs qui proviendront de partout au Québec. Si vous voulez en savoir plus et être à jour sur ce qui se passe à cette microbrasserie, vous pouvez suivre leur page Facebook ou aller sur leur site Internet. Je répète donc, c'est Canton Brasse à Orford.
C'est très invitant, ça. Merci beaucoup, Monique, pour ce parcours.
Ben, ça nous fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Du côté d'Ottawa, dans le droit, Gaëlle Ganieba nous raconte que les résidents de la base ville d'Ottawa s'impatientent de voir le groupe affilié au convoi de la liberté. Vous vous souvenez, cet hiver, tout ce que ça a fait comme grabuge?
Ils sont encore très présents. En tout cas, visuellement, on voit qu'ils sont installés dans une église. Hein?
Exactement. C'est de ça qu'on parle. Donc, les résidents souhaitent voir ce groupe quitter leur quartier. Ils ne demandent qu'une chose, que la loi soit respectée. Il me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là plus tôt cet hiver. Alors que le délai accordé à leur avis d'expulsion est arrivé à échéance depuis minuit jeudi, le Peuple uni du Canada, le PDUC, a réitéré son intention de ne pas quitter l'endroit. En avant-midi, c'est armé de fusils à eau que le groupe s'est positionné devant l'église et tirant sur quiconque s'approchait de trop près. Une attitude qui agace au plus haut point les habitants qui n'en peuvent plus d'attendre. Et l'article... une des résidentes dit « Ça devient de plus en plus dangereux. Je ne comprends pas ce qu'attend la police pour les expulser d'ici. Je ne me sens plus en sécurité. Je ne parviens pas à faire quoi que ce soit. C'est trop », nous explique une résidente du quartier qui a décidé de protester au pied de l'église depuis plusieurs jours. Et l'article se termine en disant que peu après 15 heures, le service de police d'Ottawa a indiqué qu'il continue de, entre guillemets, surveiller l'église parce qu'un différend entre le propriétaire et le locataire soulève des inquiétudes au sein de la communauté. Pendant ce temps, le PUDC réaffirme sa position. Ses membres ne bougeront pas. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Du côté de Québec, ça fait un an, il y a eu un accident important au coin de Dufresne et Montmorency. Et c'est une demande du maire de Québec, M. Marchand, que le gouvernement provincial s'occupe de sécuriser l'endroit. Ça fait partie d'un certain nombre de demandes qui vont être émises par le maire lors de la semaine en vue des élections à venir. En deuxième demi-heure de l'émission, on va parler consommation avec détergent à lessive et on va parler histoire avec le procès de l'évolution. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
Change pas de main. Il est vrai que tout va plutôt bien. Tous ces petits... Martine Sinclair, laver.
Bon Dieu, je me demande pourquoi, Maurice, vous avez choisi cette chanson-là.
Ben oui, on se le demande.
Hein? On se le demande, n'est-ce pas, M. Hamelin?
Oh, oui, certainement.
En effet,
Jean-Maurice.
Je pensais que le sujet que vous aviez proposé est un petit sujet comme ça, qu'on allait jaser tranquillement. Vous auriez dû entendre le débat, vous, pendant la chanson.
Oui, mais elle n'avait pas le bon débat, parce que moi, je ne parlerai pas des machines à laver.
Non, vous me l'avez déjà fait.
Je vais parler des détergents.
Oui,
les détergents.
Oui, mais j'ai parlé aussi des vêtements, comment on les lave,
oui,
les tissus avec les tissus, puis que les couleurs, des fois, c'était secondaire.
C'est ça.
Ça que j'ai de la difficulté, savoir quel tissu je mets dans ma machine.
Oui, bon, mais moi, je ne parlerai pas de ça.
Débat inutile. Alors,
réglons le détergent.
Ben
là,
oui, détergent. Ils ont testé la revue Protégez-vous, toujours, a testé 18 produits, puis il y a un seul qui se démarque, alors que deux autres sur les 18 produits testés ne sont pas plus efficaces que de l'eau. Ah, ah.
Oh!
Oui, madame.
Et là, le débat est reparti. Mais donc, 1 sur 18?
Oui. Allez, il y a trois sortes de tâches. Saviez-vous ça? Il y a la tâche...
La tâche qui part, la tâche qui part pas.
De gras, la tâche de gras.
Oui.
Il y a la tâche d'origine enzymatique. C'est quoi ça? C'est le chocolat, la boue, le sang, purée de carottes. OK. Et la tâche oxydable qui est produite par l'herbe, le café, le thé, les bleuets, la sauce tomate, le vin rouge, etc., etc. Ça va? Alors, okay. Il y a trois sortes de tâches, et pour que ces trois sortes de tâches disparaissent, il n'y a qu'un détergent
roulement
qui va faire disparaître ça.
Roulement de tambour?
Je ne vous le dirai pas tout de suite.
Ah!
Donc, ils ont testé 18 détergents sur 14 types de tâches, comme je vous le disais. Ils ont aussi lavé une vingtaine de fois 22 morceaux de tissu coloré avec chacun des détergents pour voir si ces derniers préservaient bien les couleurs ou non. Et au total, on a fait plus de 400 brassées en laboratoire, toutes à l'eau froide. Résultat.
Bon.
Avec une note.
On y arrive.
De 92%.
Et c'est pas
alors mal, que ça descend. Le deuxième descend à 83, le troisième descend à 78, le quatrième 67, le cinquième 66.
OK,
et
donc.
Puis, alors, 92%, c'est le seul, l'unique détergent qui s'appelle Douce Lavande, fabriqué par Tide.
Douce lavande par Tide.
Tide zéro. Ça okay. s'appelle Tide zéro.
Et ça, alors, c'est à l'eau froide.
Ça, c'est tout est à l'eau froide. Là-bas. Ils ont testé à l'eau froide.
Puis je vois sur votre tableau, tous les critères sont verts dans ce cas-ci.
Et voilà. Alors, c'est testé pour les taches de gras. Ensuite, il y a l'éco-étiquette. Ça, c'est une autre histoire. Il y a plein d'éco-étiquettes
oui,
qui ne sont pas des vraies bonnes éco-étiquettes. Il faut faire très attention. Il n'y en a que deux seules. Les deux seuls incontournables, c'est Ecologo. Au Canada, le label Ecologo est décerné par UL Underwriters Laboratories.
Puis pouvez-vous nous décrire le logo?
C'est un logo avec un vert, avec un petit rond blanc au centre. C'est marqué UL dessus.
Okay.
Puis il y a comme une petite plante là qui pousse. Là.
C'est bon.
Et puis il y a Safer Choice. L'approche d'éco-logo axée sur le cycle de vie du produit n'est plus... Bref, le label Safer Choice, décerné par l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA. Alors, donc, Safer Choice, c'est un genre de rectangle vers le haut. Et puis, avec justement une petite plante, une petite maison par-dessus, avec du petit bonhomme.
Puis, avec le gros titre Safer Choice.
Celui-là,
il est facile à retrouver.
Alors, ça, les autres, là, Certified Corporation, Green E, EcoCert et RSPO, Certified Sustainable Palm Oil, ça, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Ils disent n'importe quoi, ou presque, dans ces logos-là. C'est beau.
Ça va être un des... Moi, je fais la... C'est moi qui fais l'épicerie à la maison. Alors,
ça va être
un nouveau défi de comprendre, de prendre les bons logos et pas les...
Oui, il y en a juste deux, c'est pas compliqué. Puis il y a deux... Ça, elle est bonne, celle-là. Je vais vous lire ça, là. Le résultat Tête Zéro se démarque tant par sa performance de nettoyage que par le sérieux de sa certification écologique. Par ailleurs, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les fameuses boules de lavage en plastique, les gargouilles, qui nettoieraient les vêtements sans substance chimique. Malheureusement, comme ce produit ne fait pas mieux que l'eau, il arrive bon dernier au classement. Quant aux noix de lavage éco et éco, elles ont donné des résultats similaires.
OK, donc et... les boules en plastique et les noix, là,
c'est
faut...
ça, les gargouilles, on oublie ça, paraît-il, c'est ça, voilà, à part de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire. En deuxième position, il y a le Kirkland, avec 83%, Kirkland qu'on connaît probablement avec Costco.
Ah, c'est parce que j'ai...
Ultra propre, pur et net.
Je suis un illettré de Costco, fait que ça savait pas.
Bon. Ensuite, en troisième position, il y a le Persil. PERSIL, Pro Clean Deep, et puis et le mieux. On suggère le mieux. Ça fait preuve d'une efficacité acceptable pour déloger les taches de gras et d'origine enzymatique comme celle de chocolat et de boue, mais il fait un peu moins bien pour ce qui est des taches oxydables d'herbe ou de café, par exemple. Mais il préserve toutefois très bien les couleurs. C'est important, ça.
Et le mieux, c'est à quel endroit on peut trouver une chose,
bon, ça, je ne un saurais,
produit comme
je
ça?
Je ne saurais vous dire.
On va faire des recherches là-dessus.
Oui. Il est offert en vrac et produit au Québec. Donc, j'imagine dans les...
Puis, je vois de loin, les prix, ça a l'air de quoi dans vos produits?
Eh bien, les prix, dépendant, c'est parce que c'est 2 litres, donc taille 0, c'est ça. Alors, le Kirkland, bien sûr, 18$ avec 5 litres, et puis... mais ça revient, attendez, par brassée. Le taille 0 revient à 27 cents par brassée. Le Kirkland revient à 12 cents par brassée. Le Persil, 21 cents. Le Mieux, 23 cents. Attitude, 22 cents. Hein? Attitude, c'est québécois, ça.
D'accord.
Dans différents produits. Alors, ça revient autour de 20
autour
cents.
Autour d'une vingtaine de cents. Mais celui qui se classe le mieux, sans jeu de mots, parce qu'il y a un produit qui s'appelle le mieux, mais le Tête Zéro, c'est quand même celui qui a l'air le plus dispendieux par
rapport à ça. Oui, c'est le 27 cents. Il y en a un qui s'appelle Planète, lui, qui est coté à 55%, qui se vend 58 cents de la brassée, hein. Alors, je ne sais pas lequel vous utilisez. Moi, j'utilise la Parisienne. Hein?
Oui.
Bon. Et puis, c'est pas le meilleur. Hein?
Moi, je n'ai pas de problème avec. Alors, un autre sujet de débat.
Oui, ça va, on peut laver quand même. C'est mieux que de l'eau, là. Je comprends, c'est mieux que de l'eau. Lui, il revient à 12 cents. Hein? C'est pour ceux qui ne sont pas très riches, là. C'est comme moi, là.
Exactement.
Et puis, encore comme nous.
D'accord avec vous.
Oui, c'est ça. Alors, on va adopter ce produit-là, peut-être. En terminant,
oui.
Donc vous utilisez la Parisienne sans faire de publicité.
Le Arctic Power, il arrive en je ne sais pas combien, avec 57%, 14 cents Arctic Power.
Mon Dieu, il me semble que c'était à une autre époque, ce nom-là.
Oui, Arctic Power, mais l'eau froide.
Mais à cette époque-là, c'était le seul qui se faisait.
On a fait de la publicité.
qui faisait de la publicité. Ben, c'était pas nécessairement le pas seul nécessairement. Immense, c'est ça. Ils ont insisté beaucoup. C'était comme leur marque de commerce. Oui.
Je comprends.
Ça lave, mais le meilleur, c'est taille zéro.
Alors, j'ai peut-être des chances un jour de faire un bon lavage et je vais remercier Serge Hamelin pour cet exploit.
Et la revue Protégez-vous.
Bien sûr.
Je suis un serviteur de confiance, c'est tout.
Et on se reparle à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Est-ce que vous savez quel sujet?
Ça s'appelle faire son épicerie pas chère.
Oh, j'aime ça.
OK.
On s'est connu qu'une saison à peine. Dès le début, it was the end. Si vers la fin, on s'est amouraché, revint l'hiver, défaire l'été. Puis à Paris, tu étais mienne. On s'était dit, see you again. Mais la cigale n'a plus chanté, dès que la valse s'est arrêtée. Dans un monde à l'envers parfait pour se quitter. Trop long l'hiver, trop court l'été. J'en perds mes couleurs et mon blues est blasé. Trop long l'hiver, trop court l'été. C'est blasé.
Alexandre Désilet, trop court l'été.
Merci Maurice. Bonjour Marcel Dugas, ça va bien?
Ben, ça va très bien vous-même.
Bien, oui, certainement. Alors vous êtes en plein dans le thème cette semaine, on ne vous l'avait pas dit, mais en fait notre thème c'est l'éducation. Et je comprends que vous allez nous parler d'un sujet qui a porté un peu à controverse et je pense qu'il continue à porter à controverse, c'est l'enseignement de l'évolution. Mais vous allez nous ramener en fait au début du siècle, en 1925.
Mais l'actualité nous plonge fréquemment, nous amène fréquemment des relents du passé. Si vous suivez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, les forces conservatrices essaient de bannir toutes sortes de livres et plusieurs États ont adopté des lois qui interdisent d'enseigner aux jeunes des concepts comme les méfaits du racisme et la diversité de genre. Les enseignantes, les enseignants, qui sont déjà sous-appréciés et sous-payés, sont considérés dans certains cercles de la droite comme des gens dangereux qu'il faut contrôler. et ça se passe en 2022, mais on n'est pas si loin de l'année 1925, alors qu'a eu lieu un des procès les plus célèbres de l'histoire américaine. On l'a surnommé le Scopes Monkey Trial, le procès de Scopes et ses singes, traduction maison. Il n'était pas question à ce moment-là de race ou de genre, mais bien de séparation de l'Église et de l'État et de l'affrontement entre la science et la religion, deux questions qui ne sont pas entièrement résolues 97 ans plus tard, incidemment. Chaque civilisation a son récit cosmogonique, donc la manière dont on expliquait la création de la Terre, de l'univers et notre présence à nous sur cette planète. Chez les chrétiens, on a postulé que Dieu avait créé l'univers en 6 jours et que l'homme avait été modelé à partir d'une poignée de poussière à laquelle Dieu avait insufflé la vie avant de prendre une côte à Adam, l'homme original, pour créer Ève, la toute première femme. C'est farfelu, mais au moment où est rédigé l'Ancien Testament de la Bible, c'est le mieux qu'on pouvait faire.
On y croyait.
On y a cru pendant très longtemps, et lorsqu'on a finalement commencé à comprendre que les humains ne provenaient pas d'une poignée de poussière, mais étaient le fruit d'un long processus évolutif, et que nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés et d'autres grands primates, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. En 1925, l'État du Tennessee, dans le sud-est des États-Unis, a adopté une loi qui interdisait l'enseignement de l'évolution dans les écoles, comme ça contrevenait à ce qu'on retrouvait dans la Bible, et une organisation nommée l'American Civil Liberties Union a offert de défendre qui que ce soit qui serait accusé en vertu de la nouvelle loi, mais même le gouverneur qui a sanctionné la loi ne s'attendait pas à ce qu'elle soit appliquée. C'était sans compter sur les notables d'une municipalité d'environ 2000 habitants dans l'est du Tennessee nommée Dayton. Leur idée, c'était la suivante. Si on pouvait trouver un enseignant local prêt à être accusé d'avoir enseigné l'évolution, le procès qui suivrait se transformerait en affrontement entre la science et la foi, ferait probablement les manchettes un peu partout, et ça donnerait une publicité formidable pour la ville. On a déniché un bon candidat pour ce faire en la personne de John T. Scopes, S-C-O-P-E-S. Les sources varient à son sujet, mais il semblerait bien qu'il était entraîneur de football à l'école secondaire locale et il faisait de la suppléance en sciences et en mathématiques. Et Scopes, même s'il n'était pas certain d'avoir effectivement enseigné l'évolution, a accepté qu'on l'accuse de l'avoir fait. Certains de ses élèves ont témoigné contre lui, même si la paire qui on leur avait dit quoi dire. Et Scopes a été cité à son procès en juillet 1925, procès qui est passé à la postérité en tant que procès de Scopes et de ses singes, parce que, pour les tenants du créationnisme, l'idée qu'on puisse avoir un ancêtre commun avec les grands primates plutôt que d'avoir été façonné directement par le Tout-Puissant, c'était vraiment dégradant, il n'y a pas d'autre terme, et on n'en revenait pas que les gens aiment les singes au point de vouloir être cousins des chimpanzés et des gorilles, alors que ce n'est évidemment pas la question.
Il manquait d'ambition, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. On avait une destinée plus grande. On disait que c'est les grands primates, c'était des créatures inférieures. Nous, on est au sommet de la création. Ça se peut pas qu'on soit apparenté à ces créatures-là. Bien, si l'objectif, c'était de faire parler de Dayton, Tennessee avec ce procès, ça a été un succès sur toute la ligne. Plus de 200 journalistes de partout aux États-Unis étaient sur place pour couvrir l'événement. On avait même 2 reporters venus de Londres pour l'occasion. On a dû embaucher 22 télégraphistes pour disséminer par fil télégraphique ce qui se disait lors du procès. Ça fait la une de tous les journaux, y compris chez nous. Le Devoir, la Presse, la Patrie, nos quotidiens ont suivi l'affaire pas à pas. Le procès a même été diffusé à la radio, à la grandeur des États-Unis. C'est un des tout premiers procès jamais retransmis par ce médium. Et c'était vraiment un procès spectacle. Un journaliste a décrit le tout comme un croisement entre un cirque et une guerre sainte. Dans les deux camps, on avait assemblé des équipes d'avocats qui n'étaient pas sans rappeler le procès d'O.J. Simpson, bien des décennies plus tard. La défense avait recruté Clarence Darrow, un des avocats les plus célèbres du pays à l'époque, alors que la figure de proue de l'accusation était William Jennings Bryan, 3 fois candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Il avait mordu la poussière chaque fois. Il avait aussi servi comme secrétaire d'État du pays, mais avait pris sa retraite de la politique pour se consacrer, notamment en tant que chrétien fondamentaliste, à la lutte contre l'évolution. Se faisaient donc face 2 des plus remarquables orateurs de leur époque. Bryan axait toujours ses campagnes électorales sur des grandes tournées où il donnait des discours fleuves un peu partout. C'est un modèle qui était peu utilisé en politique jusqu'alors. Et Darrow, au cours d'un procès l'année précédente, avait offert une plaidoirie de 12 heures qui avait profondément secoué son auditoire.
Sur le même sujet?
Oui, absolument. C'était pour, il voulait convaincre le tribunal de ne pas condamner à mort deux criminels. Donc, non seulement c'était de très bons orateurs, c'était des gens qui pouvaient parler pendant très longtemps aussi.
Il y avait du souffle.
Tout à fait. Dès le départ, le juge a rappelé au jury qu'on ne faisait pas le procès de la loi elle-même, qu'on tentait de déterminer si oui ou non Scopes y avait contrevenu. D'ailleurs, la défense avait fait venir plusieurs experts en matière d'évolution. Le juge a refusé de les entendre, mais il était un des rares à considérer que c'était véritablement le procès de John Scopes, qui n'a d'ailleurs pas été appelé à témoigner. Ce qu'on voulait surtout voir et entendre, c'était les passes d'armes entre les deux principaux avocats. Et autant l'arrivée de Brian pour la première journée des audiences a été saluée par une salve d'applaudissements, autant c'est Darrow qui a soulevé la foule en disant que la Bible n'avait rien à faire dans les cours de sciences et que son vis-à-vis avait beau être engagé dans un duel à mort contre l'évolution, le résultat ne serait pas à sa satisfaction car on ne peut se battre en duel contre la vérité. Au septième jour du procès, procédure pour le moins inusitée, Darrow a invité son opposant à témoigner en qualité d'expert de la Bible. Là, on a eu l'affrontement qu'on souhaitait. Et l'avocat de la défense a questionné Brian sur différents récits bibliques, notamment la question de la côte d'Adam donnée à Ève, pour démontrer que la Bible n'avait pas de fondement scientifique et qu'on devait empêcher les bigots et les ignorants de contrôler l'éducation dans le pays. Alors que selon William Bryan, Darrow voulait tout simplement ridiculiser les gens qui croyaient en la Bible. Après deux heures d'échange, le juge a mis fin à l'interrogatoire, considérant le tout hors de propos. La défense a décidé finalement de ne même pas offrir de plaidoirie finale. Comme le juge avait refusé d'entendre son argumentaire sur le bien fondé de la loi, on a demandé au jury de reconnaître l'accusé coupable pour pouvoir aller en appel. Et après 8 jours de procès et seulement 9 minutes de délibération, les jurés ont effectivement reconnu John Scopes coupable et le procès de Scopes et ses singes était terminé. On est allé en appel, la Cour suprême du Tennessee a maintenu la constitutionnalité de la loi, mais on a statué que Scopes n'avait pas à payer l'amende de 100 $ à laquelle il avait été condamné. Il y avait eu un vice de procédure lors du prononcé de la sentence et le ministre de la Justice de l'État a décidé de ne pas demander un nouveau procès, mettant fin aux procédures, et la loi interdisant d'enseigner l'évolution dans le Tennessee est demeurée en vigueur jusqu'en 1967. En somme, le procès a été spectaculaire, très suivi, mais n'a pas vraiment réglé quoi que ce soit en termes de présence de la Bible et de la religion dans le cursus scolaire. Je dirais peut-être au contraire, chez nous, on a pu lire dans les pages de l'Action catholique, qui est un quotidien de Québec, comme son nom l'indique, assez proche du clergé, on disait que le procès démontrait en fait la nocivité de l'école publique non confessionnelle, là je cite. La neutralité religieuse est une hypothèse irréaliste et irréalisable, une sottise répandue pour masquer l'athéisme ou tout autre poison en isme, probablement le socialisme et le communisme. D'ailleurs, ça a été très long avant qu'on arrête de considérer les écoles non confessionnelles comme un poison. Encore dans les années 1970, Camille Sanson et les créditistes dénonçaient avec vigueur le fait qu'on sorte le bon Dieu des écoles, mais ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. C'est rare que j'annonce mes couleurs à la chronique.
Bien
la
oui.
Semaine prochaine portera sur le crédit social, sur Camille Sanson et Réal Caouette. Ne manquez pas ça.
Bien, en effet, ouais. On va être là. Soyez assurés que nous allons y être. Merci beaucoup, Marcel Dugas. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, j'enchaîne avec une courte par actualité, comme à l'habitude, rendue dans ce bloc avant la dernière partie de l'émission. Valérie Desroches, au fil des obstacles. Alors, c'est une para-karaté interviewée par Catherine Harvey-Pinard dans la Presse Plus récemment. En fait, cette dame, elle souffre de dyspraxie ainsi que d'autisme. Et elle a été victime d'exclusion plus souvent qu'à son tour dans la vie, dans le sport. Elle a vécu beaucoup de frustration. Et récemment, elle a remporté une médaille d'or au championnat du monde de para-karaté, qui est le World Union of Karate, c'est d'une fédération canadienne. Et c'est un bel exemple dont je voulais vous parler parce que elle a subi beaucoup d'outrages et d'injustices parce que on a reconnu son état. En fait, c'est elle-même qui l'a reconnu d'une certaine manière qu'après de nombreuses années. Alors, pendant tout le temps qu'elle était à l'école primaire, secondaire et collégiale, elle souffrait de ces deux maladies. Et c'est en suivant des cours de maîtrise en orthopédagogie à l'Université de Montréal qu'elle a eu un déclic. Elle regardait une vidéo qui était présentée par un professeur et elle a dit « Mais voyons, c'est l'autisme. » C'était sur l'autisme. Mm-hmm. L'autisme, c'est ce dont je souffre. Et dit, j'étais vraiment, mais vraiment sous le choc. Et ça lui a permis de revenir au karaté parce qu'elle avait déjà commencé à en faire. Et après ça, justement, quand elle a recommencé, elle s'est rendue compte que c'était pas seulement de l'autisme dont elle souffrait. Alors voilà pour cette dame. À venir dans la deuxième, en fait la dernière partie d'émission, entre autres Jocelyne Richard, une entrevue que va réaliser Yvan Deslauriers.
Et on va parler aussi, Francine, de téléphone cellulaire à l'école. Et je pense que ça va brasser, pas dans votre chronique évidemment, mais les jeunes de nos jours, le cellulaire, c'est leur bras droit et une partie du bras gauche, souvent. Alors, de ne pas permettre ça à l'école, ça devrait soulever les passions, je pense.
Je pensais que vous annonciez un autre débat ici après celui sur la lessive. Peut-être.
On va laver le sujet ensemble. Alors, on se reparle dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Alors, Francine, chronique techno.
Oui, la chronique techno, j'étais un petit peu sur autre chose.
Oui, on est en train de discuter de votre article précédent.
Oui, voilà, l'autisme qui n'est pas... On ne souffre pas d'autisme.
C'est ça, on vit avec.
On vit avec l'autisme. Alors, j'ai utilisé le mauvais verbe.
On va s'habituer.
On va s'habituer, en effet. Dehors les téléphones. C'est ainsi qu'on titre cet article dans la presse plus aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Marie-Ève Moras, qui en est l'auteur. Et on invite, comme on le fait maintenant de plus en plus dans la presse, sur certains sujets qui peuvent donner lieu à des débats.
On invite les
lecteurs à dire qu'est-ce que vous pensez du téléphone cellulaire qui deviendrait interdit dans les écoles. Donc, si ça vous tente, vous pouvez écrire à la presse plus pour, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite enveloppe, pour faire part de votre commentaire ou de votre opinion.
Et souvent, ça devient une page complète de réactions pour et contre ce sujet-là.
Oui, c'est un sujet qui est, je vous dirais que c'est pas nouveau là, dans les écoles. On en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que moi, je travaille encore dans le milieu scolaire et cette année, je suis au milieu secondaire et collégial. Là, je fais deux niveaux en même temps. Et cette question-là, elle est toujours sur la table. Il faut voir les codes de vie dans les écoles. Et dans les cégeps et universités, pour voir jusqu'à quel point c'est une question qui est préoccupante. Préoccupante parce qu'il y a évidemment le cellulaire, je dirais, pendant la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la classe, hors de la classe, dans les corridors ou encore dans la cour d'école, et aussi pendant les périodes d'examen, hein, vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas toujours facile, toute cette gestion-là. Mm-hmm. Alors, Marie-Ève Moras dit que, alors que la cloche sonne, le retour en classe pour des milliers d'élèves, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, dit qu'il n'y a pas l'intention de baliser l'utilisation du téléphone cellulaire dans les écoles. Bon, comment ça se fait qu'on s'en remet au ministre pour cette question-là et non pas aux établissements? C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Ontario et en France, on le fait présentement. Ici, comme je le mentionnais, ça n'empêche pas les écoles secondaires, c'est de ça dont on parle, d'avoir des balises très, très, très claires. Mais maintenant, ces balises-là, ben, il faut les... qu'on soit capable de les implanter, et il faut qu'on soit capable aussi d'avoir des sanctions qui vont porter fruit. Là, le terme sanction, bon, je le mets entre guillemets, quoique dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des sanctions, c'est-à-dire qu'au début, ça peut peut-être être des réprimandes, mais quelqu'un qui ne voudrait pas se conformer à ça, ben peut-être que ça ne serait pas évident, puis ça pourrait conduire effectivement à des sanctions. Il y a des problèmes qui émergent de cette utilisation envahissante du cellulaire. Alors, comme je l'ai mentionné, dans les classes, c'est sûr que si on fait sonner à tout bout de champ, disons que ça dérange beaucoup la concentration, non seulement des élèves, mais aussi de l'enseignant. Aussi dans les corridors où certains directeurs disent ben, les élèves, ils se promènent dans les circules et ils ne regardent pas devant eux. Ils regardent leur téléphone. Donc, ça peut donner lieu à des bousculades, mais aussi, c'est la conversation qui écope. Hein, on veut que les élèves discutent et non qu'ils aient toujours les yeux sur leur cellulaire. On le sait qu'en dehors de l'école, ils sont longtemps sur leur appareil électronique. On pense qu'une pause dans la journée leur fait du bien. Serge Guittard, qui est directeur de l'école secondaire Grande-Rivière, s'exprime ainsi. Ça fait 5 ans que dans son école, on a inscrit dans les règlements que l'utilisation des appareils électroniques doit se faire en dehors des murs de l'établissement. Donc, ça va jusque-là pour certains. C'est interdit ou dans les locaux dédiés le midi. Donc, ni pendant les activités scolaires, ni pendant les activités extrascolaires, quand on est sur les lieux à l'école, pas question d'utiliser un cellulaire.
Est-ce que l'article dit comment les élèves ont réagi à cette
directive? Bien, en fait, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme de ce côté-là, parce que c'est sûr que les élèves veulent continuer, on parle de façon générale, ils veulent continuer à utiliser leur appareil, alors que ce qu'on voit, du côté des parents, c'est pas tout à fait la même chose. Les parents y approuvent, alors ils sont satisfaits parce que leur enfant n'est pas sur son cellulaire toute la journée, c'est ce que ce même directeur des écoles dit. Dans une autre école à Gatineau, on a posé la question à la direction et on dit est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ça? Ben non, les élèves ne sont pas d'accord. Ils comprennent assez bien ce pourquoi on l'interdit, mais sûrement pas toujours, parce que c'est évident. Comme vous le disiez, c'est un prolongement de soi-même.
Oui, oui, oui. Je pourrais comprendre dans la classe. J'ai moins de facilité à comprendre pour les déplacements et ces choses-là, honnêtement. Et s'il y avait un compromis à faire, moi, je le ferais dans cette direction-là, honnêtement.
Je vais vous amener sur un autre volet de cette utilisation-là.
Allons-y.
Je vais toucher à l'intimidation. Parce que vous savez que dans les écoles secondaires, il y a des politiques très rigides, là, c'est imposé par le ministère, contre la violence et l'intimidation, de même que des règlements d'application qui concernent à la fois les élèves et les parents et, je vous dirais, l'ensemble de l'équipe école. Avoir l'utilisation de son cellulaire pendant les périodes où on est libre, ça peut donner lieu... Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut donner lieu à des échanges sur des médias sociaux qui mettent en cause des gens avec qui on a eu maille à partir le matin ou encore à s'exprimer sur certaines situations. Et ça va vite, ça va très vite et c'est sans réflexion aucune, là, c'est de la spontanéité, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils sont jeunes qu'ils font ça, n'importe qui dans ce contexte-là pourrait avoir ce réflexe-là. Alors c'est sûr que ça soutient ça, et justement dans les politiques et règlements qui encadrent soit la violence, l'intimidation ou encore l'utilisation des technologies à l'école, il y a aussi d'autres règles qui s'ajoutent. Et comme on sait que le téléphone maintenant, c'est le principal outil quand on parle de technologie, là. On peut faire toutes sortes de choses. Mm-hmm. Ça peut donner lieu aussi, puis là, je vais arriver sur autre chose, parce que il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Par exemple, de photographier des réponses à des questions d'examen, alors que le groupe qui suit va peut-être avoir le même examen que celui qui vient de l'avoir. Alors, vous voyez, là, ça, c'est un build-up, comme on dit en français, mm-hmm. qui ne s'arrête pas juste à la communication comme telle. Alors, c'est intéressant qu'on lance ce débat-là. C'est intéressant de voir que dans certaines écoles, peut-être on s'est dit que la meilleure chose à faire, justement, plutôt que d'essayer de continuer à encadrer, il y a des limites aux règles et à leur implantation. Donc, c'est peut-être une voie à suivre, je ne sais trop.
Mais en même temps, c'est difficile d'application. Puis, j'essaie de me mettre dans les souliers d'un enseignant qui a géré une classe d'entre 20 et 30 élèves, puis qui a géré cet élément-là. C'est pas évident pour moi. Là. J'essaie de me mettre à la place. Puis,
mais il n'y a pas juste ça à gérer. Hein. Il y a à gérer l'ordinateur aussi, qui est généralement linké, comme on dit en bon français, avec le téléphone.
Tout à fait. Alors, sujet de débat, mais sujet de réflexion aussi sur plutôt comment on utilise ces outils-là plutôt que de les proscrire. Je pense que j'aimerais mieux aller dans cette direction-là.
Moi, un jour, je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police, je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, 3-4 chambres et puis un grand dressing et le coupé 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Plus tard j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien je suis pas très matériel, je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel, je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais ça me convient. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Demain, eh ben ça devrait aller. Tu sais bien, je me contente d'un rien. Moi, tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais, c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis, je me demande si enfin, en grand, je pourrais rêver. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez. Riez, riez, ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement.
Riez par Stromae.
Et que j'aime Stromae. Maintenant, on se dirige vers l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Et le 11 septembre prochain, chère Francine, il va se passer quelque chose d'assez spécial. On va en discuter avec Jocelyne Richard, qui est présidente de l'association. Et quand on veut partir quelque chose, on va être témoin de quelque chose qui commence. N'est-ce pas, Jocelyne?
Oui, tout à fait. C'est la première année qu'on réalise un duathlon. C'est surtout pour une participation, parce que c'est quand même deux disciplines. Oui. Course à pied et tandem. Alors, les gens se sont pratiqués cet été malgré la chaleur accablante.
Mm-hmm. Combien d'équipes vont participer à ce duathlon? Une douzaine d'équipes.
Oui, quand même.
C'est vraiment impressionnant, oui, effectivement. Donc,
c'est assez difficile d'organiser ça. Moi, j'ai réalisé ça cette année parce que tu as des membres qui habitent dans l'Est, d'autres dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud, ça arrive Sud, ça arrive Nord. Là, les bénévoles restent pas à côté, là.
Oui, définitivement. Mais il me semble qu'il y a au moins une équipe, c'est père-fille, n'est-ce pas?
Attends une minute, là.
Ah, c'est parce que j'ai vu sur YouTube, il y avait une petite publicité, puis il me semble que c'était le père avec sa fille.
Ah, ça, là, je suis pas témoin de ça. C'est peut-être autre chose.
OK. Donc, oublions les 30 dernières secondes. Et donc, 6 équipes. Est-ce que ça commence par la course ou ça commence par le tandem?
J'ai aucune idée comment ils organisent ça. Mm-hmm. C'est sur l'île Sainte-Hélène.
Oui.
Nous, avec la remorque puis les tandems, il faut arriver là à 6h30 le matin. Mm-hmm. On va juste espérer qu'on va avoir du beau temps et non de la pluie.
Oui, oui, oui. Mais ça fait partie, je pense, de l'exploit, peu importe la température.
Oui, c'est ça.
Mais moi, j'ai pu être témoin de l'essor et de la popularité qu'a pris le tandem auprès de vos membres. Et vous m'avez dit à quelques reprises que le kayak est en train de prendre ce genre d'essor-là. Fait qu'on va souhaiter que ce genre d'exercice-là, le duathlon, va suivre le même parcours.
Oui, tout à fait. Oui. Bien, en tout cas, il y en a qui ont pris ça vraiment au sérieux. Hein. Ils se sont inscrits à des ateliers. Triathlon Québec nous a quand même supportés, a donné des instructions, comment se préparer pour, même si c'était une participation. Ils ont pris ça vraiment au sérieux. Alors, on a eu quand même du très bon soutien.
Est-ce que vous savez si les équipes, particulièrement, moi, je suis plus vous savez que je suis plus un rouleur qu'un coureur, mais les gens qui courent, est-ce que c'est des gens qui couraient auparavant ou ça a été la motivation pour qu'ils se lancent dans cet exercice-là?
Certains faisaient déjà de la course à pied, mais il y en a, c'est pour eux, c'est du nouveau.
Donc,
plusieurs, je dirais la majorité, c'est du nouveau.
C'est un mélange.
Oui. Évident, hein, courir à pied. Là. Moi, quand tu ne vois pas, il faut audacieux, pas à peu près. Là.
Oui, 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 c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, je vous demande déjà, pour dans un mois, quand on va se parler, de nous parler justement des résultats de cet événement-là.
Tout à fait.
Maintenant, il y a d'autres activités qui se maintiennent ou qui commencent, je pense, au kayak en particulier, puis vous m'avez parlé de soccer sonore.
Oui, le soccer sonore va débuter le 6 septembre. C'est une jeune équipe, ça. C'est parce qu'il faut que tu sois audacieux, là, aussi, là. Tu sais, tu vois pas, puis tu cours après le ballon qui sonne, là.
Même en voyant, c'est pas nécessairement évident. Hein.
Non, c'est ça. Ben, les voyants qui vont jouer au soccer sonore, faut qu'ils soient comme les autres, soient aveugles les autres avec.
Oui.
Mais ça, c'est une jeune équipe, quand même. C'est plus les jeunes qui sont intéressés par ça, par cette activité-là. On l'avait réalisé au printemps. Et puis, ben là, ça refait surface. Les gens veulent en faire plus. Alors, cette session-ci, on a trouvé un gymnase où on peut réaliser l'activité non seulement 8 séances, mais 16 séances pour l'automne.
D'accord.
C'est ça.
Ça va se faire à quel endroit, là?
Ça se fait au 3590 rue Jeanne-Mars. C'est un petit gymnase qui est très convivial. Et puis, ça va se faire le mardi soir de 19h à 21h. Ça commence le 6 septembre.
Et les gens qui sont intéressés, ils font quoi?
Il faut qu'ils s'inscrivent à la SAM parce qu'il y a quand même des frais à ça.
D'accord. Et on finit avec le kayak.
Oui, le kayak, cette année, ça le fait fureur. On fait des duos. en fonction de la résidence des gens. Sur la rive sud, on va souvent à Ottenburg Park.
Oui.
Et puis, eux autres, ils sont très conviviales. Ils acceptent le tarif simple pour un kayak double, un peu comme la rivière des Mille-Îles. J'ai vraiment pas eu de difficulté à négocier ça.
Mm-hmm.
Puis, ceux qui ont pas, qui le font en métro ou en autobus à Montréal, ils peuvent aller sur l'île Sainte-Hélène ou au canal de la Chine. J'ai eu plusieurs équipes cette année qui l'ont essayé, plusieurs.
Je m'aperçois en tout cas que vos activités se diversifient de plus en plus et il semble y avoir une très belle participation à chacune de ces offres-là que vous faites. Alors,
oui,
bravo.
De plus en plus. Comme en fin de semaine, là, encore notre activité tandem. On fait de Prévost à Val-David, 56 km, mm-hmm. 7 tandem.
C'est impressionnant. Ceux qui seraient intéressés, là, n'hésitez pas à communiquer avec l'association. C'est vraiment une très belle activité, autant physique que sociale. Alors,
oui.
Jocelyne Richard, je vous remercie pour ces informations et on se reparle dans un mois. Puis là, je vais vouloir apprendre qu'est-ce qui s'est passé justement au duathlon.
Parfait. Ben, bonne fin de semaine à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Flore Laurentienne, la pièce Fleuve numéro 1, en petit souvenir de mon spectacle de la semaine dernière au parc voyons, où est-ce que j'étais donc?
Parc La Fontaine, peut-être?
Oui, au parc La Fontaine, au parc de la Verdure. Théâtre de la Verdure. Mille pardons, je vais finir par l'avoir. Donc, voilà.
Mais Francine, comme vous avez dit, Yvan, de toute façon, c'était la dernière. Alors, on a comme une année pour se préparer pour la suite des choses.
Mais on peut quand même aller chercher la musique de Flore Laurentienne.
Ah, c'est très, très beau. Très beau. Moi, ce week-end, je vous invite d'abord à visiter nos marchés publics parce que c'est vraiment le temps, là. Hein, les récoltes sont là. Bon, maintenant, c'est sûr qu'avec les serres, toute l'année, on peut avoir des produits frais, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est les produits de la terre.
Il y a des odeurs, hein?
Il y a des odeurs. Mettez-en qu'il y a des odeurs et c'est tellement beau, là. Je veux dire, on salive juste à sentir dans
on
les marchés.
On salive à sentir, c'est intéressant.
On salive à sentir. Oui. Si vous voulez aller dans un marché un peu spécial, qui ne vend pas nécessairement les produits du temps, c'est le marché du 18e siècle ce week-end qui se tient près du musée Pointe-à-Calière, comme à chaque année, là, les 27 et 28 août. Ça ouvre vers 10 heures et ça ferme à 18 heures. Alors, c'est gratuit. Vous pouvez vraiment revivre ce temps. Et comme on annonce beau, hein, aujourd'hui, c'est la journée plate du week-end.
Oui, c'est vrai.
C'est en ce qui concerne la température. Mais moi, ce dont je veux vous
parler... C'est pas
parler...
la journée plate du week-end, on est en onde.
J'ai dit en ce qui concerne la température, il faut toujours aller voir la fin de la phrase, Monsieur Deslauriers.
Merci.
mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est le sujet dont tout le monde a parlé, c'est la foire papier. Je dis tout le monde parce qu'il y avait des articles ce matin dans les médias, on en a parlé à la radio, mais je persiste et signe, j'insiste sur la foire d'art contemporain qui se tient dans le Grand sur le Grand Quai, en fait, dans l'édifice du Grand Quai, dans le Vieux-Port, jusqu'au 28 août, donc c'est déjà commencé. C'est la 15e édition. Et ce pourquoi je vous en parle, c'est que c'est de l'art contemporain.
Oui, on peut penser que c'est difficile d'accès.
C'est difficile d'accès. Mais moi, là, il y a 15 ans à peu près, j'en ai pas manqué beaucoup. Hein. C'est la 15e édition. Et au moment quand j'ai commencé à aller voir ça, c'est que moi, j'aime l'art. Mais je disais que ma culture s'arrêtait à l'art abstrait.
Quand même.
Ben, c'est pas pire, mais il fallait aller plus loin pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'art politique dans l'art contemporain, de l'art d'expression.
Oui.
Et je ne comprenais pas trop. Et pour moi, ça a été l'école de la découverte, cette foire papier. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, parce qu'il y a les artistes ou sinon les galéristes qui sont là, qui connaissent très bien les sujets, qui sont capables de vous expliquer la démarche. Deuxièmement, c'est qu'il y a un intérêt parce qu'on peut se procurer des œuvres. Certaines sont quand même à un prix accessible. Bon, évidemment, là, vous ne paierez pas ça le prix d'un poster qui est reproduit à des centaines et milliers d'exemplaires. Mais ce ne sont pas nécessairement toujours des œuvres à 4-5 000 $. Il y en a des moins chers. Et c'est intéressant parce qu'on peut commencer notre éveil en s'instruisant, mais en même temps aussi en consommant si ça nous tente.
Puis ça se passe à quel endroit?
Et ça se passe au Grand Quai, dans l'édifice du Grand Quai, dans le Vieux-Port. Il faut cependant, dernière chose, c'est très important, il n'y a pas de billetterie sur place.
Oui, c'est en ligne. Hein?
Il faut absolument acheter son billet en ligne. Et pour quelqu'un qui ne pourrait pas y aller, il y a aussi la partie qui peut se faire en ligne. Donc, si on ne va pas sur place, on peut aussi aller voir ce qui se passe.
On peut voir des œuvres. Okay,
on peut voir des œuvres. Voilà.
Je comprends. De mon côté, mes deux suggestions... Et vous allez être surpris, c'est pas des suggestions sportives cette semaine. La première, ça s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Et je vois l'incrédulité dans votre visage. c'est une lecture publique qui va avoir lieu en fin de semaine. Il y a trois représentations. C'est Émilie Perrault qui donne cette lecture-là. Elle se dit spectatrice professionnelle. C'est le choix de carrière qu'elle a fait. Dans ses temps libres, elle est aussi animatrice, autrice, journaliste, réalisatrice, metteur en scène et productrice. Depuis 2005, elle cumule les projets sans avoir de plan de carrière précis, sinon celui de faire des choses signifiantes. Et là où elle trouve souvent le plus de sens dans sa vie, c'est en étant assise dans une salle de spectacle. C'est donc... dans un étrange paradoxe qu'elle se lance maintenant dans l'aventure scénique où elle montera sur les planches pour la première fois afin de dire à quel point elle voudrait ne pas y être. Donc, ça se passe à l'Assomption, c'est à la chapelle Bon Secours. Et l'autre chose que je voulais vous dire rapidement, c'est l'orchestre Film Harmonique. C'est Star Wars, ça se passe à la salle Wilfrid Pelletier. J'ai déjà vu des films accompagné de 70 musiciens. C'est vraiment extraordinaire. Manquez pas ça.
Back to the future, comme on dit.
Oui.
Alors, merci Yvan, merci à tout le monde, merci à Maurice qui nous a accompagnés pour la première fois cette semaine. On a fait équipe. Mm-hmm. Merci à nos chroniqueurs et à vous, évidemment, chers auditeurs et auditrices. Yvan, le mot de la fin, comme
oui,
à l'habitude.
Bien, on se reparle avec plaisir dès la semaine prochaine. Faites attention à vous. Les écoles recommencent dès lundi.